France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Être médecin dans un camp de concentration, voilà une position qui interroge. Il semble tout d'abord y avoir une contradiction dans les termes. Pourquoi les nazis voudraient-ils soigner ces mêmes déportés qu'ils exterminent à tour de bras ? C'est en réalité surtout dans les dernières années de la guerre que les nazis introduisent des médecins étrangers, évidemment surveillés de près, dans les camps de concentration, afin de garder en vie celles et ceux qu'ils voyaient comme une force productrice pour leurs efforts de guerre. Leur rôle n'était pas à proprement parler, ou du moins pas seulement, de guérir. Il s'agissait de trier les prisonniers, de décider lesquels on laisserait mourir et lesquels il valait la peine d'essayer de soigner. Des décisions extrêmement complexes, aussi bien éthiquement qu'humainement, mais qui donnent aux médecins une position extrêmement importante, notamment en vue de l'organisation d'une résistance interne au camp. Car le médecin peut aussi, par un diagnostic, ordonner le repos d'un déporté, dont le temps de convalescence véritable ou fin peut potentiellement lui sauver la vie. C'est ce que racontent le professeur Gilbert Dreyfus et Jean-Aimé Dolidier, dans ce 18e de 27 épisodes du Monde concentrationnaire de Francis Crémieux, qui revient à la fois sur le rôle des médecins dans la résistance et sur les pratiques médicales et expérimentales innommables des nazis, sur des êtres humains utilisés comme des rats de laboratoire. Une émission diffusée pour la première fois le 19 mai 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, la résistance médicale. Entretien avec le professeur Gilbert Dreyfus et Jean-Aimé Dolidier.
Tout au long de cette enquête, nous avons recueilli de la bouche des concentrationnaires français de nombreux témoignages sur l'action résistante des médecins internés dans les camps allemands. Jean-Aimé Dolidier, vous nous avez parlé de ces enfants tziganes qui étaient parqués dans un bloc du camp de Neuengamme. Je voudrais que vous nous disiez quel sort ils ont subi.
Les Allemands avaient rassemblé ces enfants pour faire des expériences médicales. Les Allemands ont recherché pour la surveillance de ces enfants des médecins pour s'en occuper. Il a voulu que ce soit deux Français et deux Belges qui s'occupent de ce commando. Les Français étaient le docteur Florence, professeur à la faculté de Lyon, et le docteur Quenouille de Villeneuve-Saint-Georges, qui était un militant communiste. Et les Belges, le professeur Billet et Jean Evraert, étudiant en pharmacie. À ma connaissance, ne survit que Jean Evraert. Les recherches à cette époque que faisaient les Allemands sur les enfants concernaient la tuberculose. Et ils avaient décidé de pratiquer par injection intra-trachéenne des cultures de bacilles de Koch pour produire des abcès locaux permettant le développement des bacilles et de suite l'évolution de cette maladie.
On inoculait la tuberculose aux gosses, quoi.
Oui, d'une façon particulière. Les cultures de bacilles étaient expédiées par des laboratoires extérieurs du camp et reçues dans ce commando, dans des flacons. Et les trois médecins et l'étudiant en pharmacie ont passé leur temps à vider les flacons de la préparation de Béca, de la remplacer par un liquide à base de sel marin et de faire les injections avec ce sel marin, qui avait une particularité que quand le contrôle radio était effectué par les Allemands, de laisser supposer que c'était bien le bouillon de culture que l'on avait inoculé en raison qu'il donnait des taches floconneuses, mais je ne suis pas médecin. Ces enfants n'ont donc pas reçu, pendant leur séjour, les injections qui leur étaient destinées. Mais ces hommes risquaient chaque jour leur vie. Et au dernier moment de l'évacuation du camp, pour faire disparaître ce bloc d'expérience, ces 24 enfants, le docteur Florence et le docteur Quenouille, ont été exécutés dans une école de Hambourg, pendus. Dans cette école, nous avons, il y a quelques années, posé une plaque à l'intention de la jeunesse allemande pour non seulement dénoncer ce crime, mais aussi, disons, placer des responsabilités.
Le docteur Quenouille, dont une plaque honore la mémoire dans une école d'Hambourg, avant d'être à Neuengamme, était à Mauthausen, et là, il rencontra le professeur Gilbert Dreyfus. Et sans rien vouloir enlever au mérite des médecins français de Buchenwald, d'Orianembourg, de Dachau, qui tous se sont dévoués jusqu'à la mort à leurs camarades de déportation, nous voudrions demander au professeur Gilbert Dreyfus un récit pilote, en quelque sorte, de son expérience de médecin détenu. Une première question, monsieur le professeur, concernerait les rapports médicaux professionnels qui pouvaient exister entre des médecins SS et vous, médecins déportés.
Sur ce plan, c'était extrêmement variable d'un commando à l'autre. Bien entendu, nulle part, nous n'étions les patrons. Le patron était le médecin-chef SS et ses sbires, tous, à Ebensee comme à Mauthausen, des détenus de droit commun, les uns criminels occasionnels, les autres criminels professionnels, selon que leur triangle vert avait la pointe en haut ou la pointe en bas.
Est-ce que les infirmiers ont eu chez vous un grand pouvoir par rapport aux détenus ?
Ils avaient simplement le pouvoir de les tuer. Tuer, je l'ai vu faire. Il y avait un malheureux Italien qui avait une méningite et qui hurlait. On est venu me chercher à 3h du matin. On dit « Dépêche-toi parce que Otto va tuer ce pauvre type ». Je suis arrivé, le Otto était déjà là. Il m'a dit « Est-ce que tu peux le faire taire ?» J'ai dit « Oui ». J'ai eu un mal de chien, d'ailleurs, à lui faire sa piqûre de morphine tellement il se débattait. Dans combien de temps est-ce qu'il va se taire ? Alors, je dis, on peut espérer dans 10 minutes. Il m'a dit, je t'en donne 5. S'il ne s'est pas tué dans 5 minutes, il aura affaire à moi. Il a regardé sa montre, car lui, il avait une montre. Et au bout de 5 minutes, il a dit, allez, emmenez-moi ce gars-là dans les cabinets, les abords. Et il l'a étranglé. Le médecin SS couvrait tout ça. Il disait, moi, je ne peux pas m'occuper des détails de la discipline. Et cet homme-là avait la haute main sur les basses besognes.
Pourquoi y avait-il un médecin et pourquoi devait-on soigner des détenus et ne pas les laisser mourir ?
Ceci ne s'est développé qu'à une période de la guerre où la direction allemande a compris que le matériel humain allait finir par manquer.
Donc, à son rang, le médecin SS participait à l'effort de guerre de l'Allemagne hitlérienne.
Exactement, et qui dit sélection dit récupération, c'était de savoir ceux qui avaient qu'à laisser crépir, c'est-à-dire en français crever, et ceux qui étaient récupérables. Fût-il récupérable pour 8 jours, quitte à mourir après, c'était tout de même quelque chose pour l'effort de guerre du Reich.
Comment ça ?
Cette notion d'irrécupérable est tellement importante que dans les derniers mois de la guerre, on a transformé un bloc en bloc soi-disant de convalescence, Schonungsblock, qui était exactement l'antichambre de la mort, et où on recevait soit directement, soit indirectement, par le canal du Revier, ceux qui étaient jugés définitivement irrécupérables. Et là, ils n'avaient pas de lit. Pratiquement pas de nourriture, et on les laissait mourir. Quand ils ne mouraient pas assez vite, d'ailleurs, on imaginait la douche nocturne. Tout d'un coup, les quelques 50 ou 60 hommes qui étaient là, qui y vivaient nus, étaient amenés aux douches, à l'autre bout du camp, dans la neige, à coups de fouet, et en général, quand il en partait 30, il en revenait 10 ou 12. C'était une sélection naturelle.
Voulez-vous nous raconter une de vos journées à Ebensee ?
Nous sommes à 7 heures du matin. Commençait cette besogne de l'ambulance, c'est-à-dire la consultation. Pour pouvoir se présenter à la consultation, il fallait avoir été agréé par le chef du bloc. Il y avait donc une double sélection.
À Ebensee, les chefs de bloc étaient majorité politique ou majorité droit commun ?
Exclusivement droit commun. Je n'en ai connu qu'un politique à la cantine. Alors là, toutes les corruptions possibles pour être inscrit sur la liste de ceux qui auront l'autorisation de se présenter à l'examen du médecin. Commençait une deuxième corrida. Il s'agissait ou de dire c'est pas grand-chose et de leur donner des médicaments. Médicaments contre la diarrhée, médicaments contre la toux ou aspirine s'ils avaient mal. Ou bien de leur donner 3 jours de repos au bloc. Ce qui ne les dispensait pas des corvées, mais ils n'allaient pas travailler au tunnel ou sur les voies de chemin de fer, ou dans telle ou telle usine, puis enfin les admettre au revire. C'était extrêmement précieux d'être admis au revire. Mais pour pouvoir les admettre au revire, il fallait qu'ils eussent une maladie grave, portée sur une fiche verte, si je me souviens bien, avec la décision. Mais cette décision devait ensuite passer par la main du caporal et éventuellement du sergent SS. Et de temps en temps, il s'approchait des ménariens, ce type-là, donnez-moi le carton, et il mettait Arbeitsfähig, c'est-à-dire apte au travail, car c'était une lutte perpétuelle. Alors il fallait, comme toujours, être relativement raisonnable. Car je ne pouvais pas prendre 100 types au revire quand il y avait 3 lits vacants. Et ce choix n'était pas généralement directement dicté par la gravité du cas. En tout cas, de temps en temps, nous avions l'impression que moralement, il était obligatoire de faire souffler tel ou tel de nos camarades, et c'est ici que se greffe la question de la résistance. Il s'agissait d'inventer un diagnostic plausible, et il s'agissait d'obtenir que le malade entrât.
Ça vous mène jusqu'à quelle heure, l'ambulance ?
Ça nous menait jusqu'à 7-8 heures du matin, 9 heures peut-être. Et alors ensuite, nous faisions le service des salles.
Et après, l'après-midi ?
Alors nous avions une chose extraordinaire, mais ça, je crois que c'est un cas unique. Notre médecin-chef SS avait décidé que, comme nous étions des gens surmenés, que nous avions besoin de toute notre lucidité et d'être d'attaque, il avait, contrevenant la loi des camps, donné ordre qu'on nous laissât nous reposer une heure, ou même peut-être 2 heures, après la soupe. Il a été pendu par les Américains ultérieurement, Dieu et son âme, mais c'est lui qui avait vis-à-vis de nous un certain paternalisme.
Quand vous aviez à discuter avec lui sur le plan du serment d'Hippocrate, par exemple ?
Moi, je n'ai jamais eu à en faire usage. Mais précisément, mon prédécesseur, il y avait un médecin SS particulièrement sauvage qui lui avait un jour tendu une seringue remplie de benzine, ce qu'ils appelaient benzine, en réalité c'est de l'essence, et qui lui avait dit, ce pauvre type n'en a plus pour longtemps, achève le don. Il lui a dit non. Il dit, comment non ? Il dit, je ne peux pas parce que j'ai prêté serment d'Hippocrate. Avez-vous entendu parler d'Hippocrate ? Non, lui a dit. Il lui a expliqué ce que c'était. Tu es complètement idiot. Allez, fais-le quand même. Non, je le ferai pas. Cette piqûre n'a pas été faite et Ebensee est resté un des rares commandos où, à la suite de cet incident, jamais une piqûre intraveineuse de benzine n'a été pratiquée à ma connaissance.
Je voudrais maintenant que vous reveniez sur ces liaisons avec la résistance dans la mesure où elle était structurée à Ebensee.
À peine étais-je arrivé. Peut-être le premier jour, peut-être le lendemain, Quenouille et Wetterwald m'ont dit que cette résistance était organisée et travaillait avec nous. Et le chef de cette résistance, le père Henri, est venu me voir et m'a dit « J'ai les meilleurs renseignements sur toi, alors voilà ce que nous attendons de toi. » Le père Henri était un artisan qui, d'origine alsacienne, parlait allemand. C'était un très ancien détenu, c'était un militant communiste, et il a réussi à devenir le bottier privé des SS. Il travaillait de son métier. Et c'est lui qui avait organisé la résistance, c'est lui qui avait créé Ebensee la cuillère de soupe. Chacun se départissait d'une cuillère pour celui du groupe qui était le plus mal en point. Alors la résistance, j'en ai ensuite connu les rouages, avait sa porte d'entrée à la Schreibstube, c'est-à-dire à l'administration centrale, sous forme d'un jeune tchèque qui préparait son agrégation de philosophie et qui était le troisième ou quatrième secrétaire. Il était impossible de changer un homme de commando sans qu'il passât par le revire. Alors, il s'agissait, même si on s'apercevait qu'il n'avait rien et qu'on le chassait du revire, que nous le sachions quelques heures à l'avance, de manière à prévenir la Schreibstube. Le gars repassait devant ce secrétaire qu'il affectait à un autre commando moins dur. De sorte que nous servions, si vous voulez, de havre de transition entre un commando dur et un commando moins dur, ce qui avait une importance considérable, et ça ne pouvait se faire que par le truchement d'une maladie imaginaire. Nous, tous ceux que je connais, nous avons compris qu'il fallait prendre des risques. Nous avons compris que ce que nos camarades de résistance attendaient, et tous nos camarades, c'était une certaine efficacité. Pour être efficace d'ailleurs, hélas, il faut être plus rationnel que sentimental, et nous avons été obligés de faire ou de laisser faire des choses qui nous déchiraient le cœur. Et notamment, on en parlera, si vous voulez, de ce qui s'appelait les sélections. Mais nous avons vraiment vécu avec l'idée que nous étions une des pièces maîtresses de la survie de nos camarades.
À votre retour de déportation, vous avez dû échanger vos expériences avec vos confrères. Si vous deviez me dresser un petit tableau général du comportement des SS ou de la Schurme avec les médecins dans l'ensemble des camps, qu'est-ce que ça donnerait ?
Leur attitude a été extrêmement différente. Et je me suis laissé dire, dans des commandos dépendants de Mauthausen, qui n'avaient accepté aucune initiative des médecins, qui considéraient les médecins comme des agents d'exécution. Dans le fond, ce sont des commandos où les médecins ont joué un rôle nul. Ça dépendait essentiellement, mais peut-être pas exclusivement, du médecin SS. Et on pouvait montrer les dents. Et on pouvait dire non à un médecin SS.
Donnez-nous quelques recettes que vous pouviez employer pour soustraire, pendant un bon moment, des hommes que vous considériez comme très menacés, ou politiquement ou physiquement, au travail.
Mais pour ça, il fallait d'abord les admettre au revire, avec un diagnostic qui était souvent un diagnostic de fantaisie. Et ensuite, ce qui était tout aussi difficile, c'était de les y maintenir, parce que deux fois par semaine, l'adjudant SS passait et faisait sortir ceux qui lui paraissaient devoir pouvoir retravailler. Alors il s'agissait à ce moment-là d'inventer un autre diagnostic qui ne fût pas trop grave, car un pronostic grave, c'était donc il est irrécupérable, donc c'est pas la peine de s'occuper de lui, mais trouver quelque chose qui permit de penser que lorsque ce quelque chose aurait disparu, non seulement il serait capable de travailler, mais qu'il serait en meilleure forme qu'au moment même où c'était décidé. C'est ainsi, puisque vous me demandez des exemples, que nous avons été amenés au 65e jour d'hospitalisation d'un homme qui était entré pour une pneumonie d'ailleurs qu'il n'avait pas, puis ensuite pour une insuffisance hépatique, je ne sais plus quels étaient les diagnostics successifs, puis un beau jour, l'adjudant SS s'est fâché. Alors comme il ne fallait absolument pas qu'il retravaille, et que c'était un homme d'un certain âge, qui était un petit peu à bout de course, nous avons fait valoir à l'adjudant SS qu'il travaillerait beaucoup mieux, ce jeune homme de 65 ans, lorsqu'on leur a coupé l'orteil, taillé en marteau. Il a accepté, on s'est arrangé pour que ça cicatrisât mal, et nous l'avons gardé encore un mois ou un mois et demi de plus, et ceci se passait peu de temps avant la libération.
D'autres recettes.
D'autres, un jour. Je ne sais pas ce qu'avait cet homme, mais le comité de résistance avait dit « il faut absolument l'admettre ». L'homme avait inventé son diagnostic et avait dit « j'ai sûrement une fracture au niveau du coup de pied ». Je l'examine et je dis « oui, c'est même une fracture sérieuse ». À ce moment, le caporal SS apparaît, se penche, il se piquait de savoir un peu de médecine, le touche et dit « là, il n'y a pas de fracture ». Ah, je dis « je ne suis pas d'accord avec vous ». « Eh bien, dit-il, nous allons prendre pour juge le chirurgien ». Il y avait deux chirurgiens. Le chirurgien soviétique, qui était, je dois le dire, extrêmement discipliné, et mon ami François Vetterval. Naturellement, le caporal SS l'adresse au chirurgien russe. Et je fais signe à Vetterval qui se précipite, se met à genoux pour palper la cheville. Son regard croise celui du caporal SS qui lui dit « Alors, naturellement, il n'a rien. » Et Vetterval répond « Mais si, il a une fracture. » Elle dit « Dans ces conditions, il faudra que je reprenne les fractures. » Parce qu'ils avaient quelquefois un bon mot, et immédiatement, pour qu'il n'y ait pas de contrôle par un autre médecin, l'avons plâtré, et il est resté 3 semaines dans son plâtre, n'ayant strictement rien, ce qui lui a permis de récupérer d'une façon extraordinaire, et il est revenu vivant des Benzés.
Vous me parliez de sélection, c'est un mot qui a été employé surtout à Auschwitz-Birkenau, puisque la direction était la chambre à gaz. À Ebenzé et à Mauthausen, que signifiait sélection?
Nous n'avons su que plus tard ce qu'étaient ces sélections. De temps en temps. Médecin-chef, SS, ou même pas médecin-chef, simplement officier SS, entrait dans un des blocs et disait 20 hommes. Les médecins employés là et les infirmiers, ensemble, à toute allure, car on disposait de quelques minutes, désignait 20 hommes, qu'on faisait sortir de leur paillasse même s'ils ne tenaient pas debout et qu'on mettait à la porte du bloc. Nous savions que ces hommes étaient parqués dans des cars de haut luxe. On leur annonçait officiellement qu'ils partaient pour Dachau, qui était un camp sanatorium. Nous savions qu'aucun de ces hommes n'était jamais revenu, mais nous savions que leurs effets étaient récupérés le lendemain. Nous étions persuadés qu'ils étaient gazés dans le car. Ceci s'est avéré inexact. Ils étaient envoyés à Hartheim, c'était un petit château sur les bords du Danube, consacré exclusivement à la vivisection. Là, il n'y avait pas de médecins détenus. Il y avait les détenus voués à la mort, et quelle mort ? Et des médecins SS qui se livraient à des expériences, telles que ablation des deux reins, ablation du foie, etc. Aucun n'est revenu. Aucun. Nous ne savons pas si on les endormait, il y a eu des témoignages contradictoires, on a retrouvé des cahiers incomplets, et c'était un petit commando de vivisection. Nous ne le savions pas, mais nous savions que ces sélections, c'était des gens qui devaient mourir dans les 48 heures. J'étais médecin-chef depuis un jour ou deux, lorsque cette cérémonie de sélection s'est produite, en l'espace d'un éclair. On ne m'a pas prévenu. Puis j'ai demandé après la liste, il y en avait 26 ce jour-là, il y avait 9 Français. Quand, 8 jours après, exactement, un mardi, je les ai vus arriver, je n'ai pas réfléchi, j'ai voulu participer et prendre la direction de cette sélection, ce qui peut vous paraître quelque chose d'effroyable. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Bon, puis ça s'est fait. Et puis j'en ai été tellement malade que j'ai vomi ma soupe à midi et que j'ai été me confesser dès que j'ai pu à 4 heures de l'après-midi à un jeune Français qui travaillait avec le médecin-chef polonais et je lui ai dit « Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour démissionner ? Je ne peux pas rester médecin dans ces conditions-là. » J'étais en larmes et même en vous parlant, je ne me sens pas très fier. Il m'a dit « Allons, allons, allons. » C'était la sélection. Combien est-ce qu'il y avait de sélectionnés ce matin ? 40. Combien y a-t-il eu de Français ? 2. Parce que je n'ai pas laissé partir les autres Français. Il m'a dit « Mon vieux, vomis ta soupe et ne dors pas si tu veux. » Mais c'est la première fois dans les annales de Matazen qu'il y a aussi peu de Français dans une sélection. Il l'a raconté. J'ai reçu toute la journée, comme si je mariais ma fille, les compliments de tous les vieux Français du camp. Il paraît que tu as réussi une sélection où il n'y avait que 2 Français. Pour être efficace, il fallait être plus raisonnable que sentimental. Il n'était pas question. 100% des hommes étant condamnés à mort, a priori, d'en sauver 100%. Donc c'était un perpétuel choix. Et qui dit choix, dit refus. Parce que sauver un homme sur 3, c'était prodigieux. Mais c'était en laisser tomber 2. Voilà ce qu'était notre vie quotidienne. Nous avons accepté, nous, de vivre dans la loi du camp pour la tourner par l'intérieur. Ceux qui ont refusé de s'intégrer dans la vie du camp n'ont joué aucun rôle et n'ont jamais sauvé personne. L'impuissance pour soi, c'est rien. Vous avez le droit de vous laisser mourir dans un camp. Mais quand on était médecin, l'impuissance, ça voulait dire laisser mourir les autres.
Vous avez eu un contact quasi quotidien avec DSS, mais DSS médecin. Qu'est-ce que c'est ?
Le fanatisme nazi est une manifestation de l'hystérie collective, dont il faut chercher les racines profondes dans cette effroyable humiliation qu'ils ont subie depuis 1918 jusqu'au moment où Hitler a reconstitué une armée qui a envahi les pays occidentaux. C'est Hitler qui avait créé le mot « asocial » pour les gens qui voulaient enfermer à vie et qui avaient le triangle noir. Eh bien, les SS ne peuvent pas être adaptés à un autre mode de vie que celui qu'on leur a inculqué. Naturellement, il y a de jeunes SS qui n'ont touché la doctrine que d'une dent dédaigneuse. Mais le vrai SS, celui qui a fait sa carrière dans les camps, eh bien, je parlerai de lui comme des malades qui laissaient mourir. Il est irrécupérable. C'est un danger social. Ce sont des malades, ce sont des hystériques, ce sont des incurables, et ce sont des gens dont il faut se débarrasser, c'est-à-dire qu'il faut mettre à l'abri de tout contact à l'avenir avec la société.
Est-ce que vous imaginez que le même médecin SS sadique dans un camp peut devenir un médecin tout à fait normal lorsqu'il aurait à soigner un paysan allemand qui habiterait à 20 km?
Mais j'en suis tout à fait sûr.
Alors il n'est pas donc tellement mentalement dérangé?
Si, si, il est dérangé sur un certain point. Cet homme-là a trop appris que nous étions des sous-hommes pour pouvoir changer d'opinion profonde. Naturellement, si on lui demande de soigner, il soignera, ça c'est un réflexe professionnel. Ce sont des gens qui ne récupéreront jamais une mentalité humaine telle que nous l'entendons.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était Résistance médicale, le 18e de 27 épisodes du Monde concentrationnaire de Francis Crémieux, avec le professeur Gilbert Dreyfus et Jean-Aimé Dolidier. Première diffusion le 19 mai 1965 sur France Culture. À suivre.